Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Le vendredi, on vous propose un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. On retrouve Marc Semon. Bonjour Marc.
Bonjour.
La semaine dernière se tenait à New York la 71e Assemblée Générale des Nations Unies. D'ailleurs, vous y étiez, Marc Semon, les réfugiés, le climat, le terrorisme, les défis sont nombreux. Mais c'est surtout le conflit syrien qui a occupé la diplomatie mondiale. Et pour cause, alors qu'on avait retrouvé un peu d'espoir avec cet accord russo-américain permettant d'établir une trêve, celle-ci a rapidement volé en éclats avec l'attaque d'un convoi humanitaire destiné à ravitailler les populations qui subissent un conflit qui dure depuis plus de 5 ans maintenant et qui a désormais dépassé les 300 000 morts. Comment peut-on laisser les Syriennes et les Syriens se faire massacrer par la volonté d'un seul pays, en l'occurrence la Russie, qui, il y a tout juste un an, lançait une intervention armée qui a permis de sauver le régime de Bachar el-Assad? Le bilan est tellement effroyable et l'impuissance de la communauté internationale à y mettre fin si vertigineuse qu'on va s'interroger une fois encore sur l'utilité et l'avenir des Nations Unies. United nothing, united to kill, les États-Unis pour les Nations Unies pour rien, les Nations Unies pour tuer, écrivaient les Syriens sur les réseaux sociaux au lendemain de la réunion du Conseil de sécurité. Les critiques sur les limites de l'action onusienne existent depuis le début de sa création, bien sûr, mais alors que la ville syrienne d'Alep se meurt à petit feu dans l'anémie la plus complète, elle se pose à nouveau de façon extrêmement vive. La Syrie enterrera-t-elle les Nations Unies? Voilà le titre qu'on a choisi, un peu provocateur, c'est vrai, pour évoquer ces questions ce matin. Avec nous, pour en parler, Serge Sur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de droit public à Panthéon-Assas. C'est Camille Grand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, le président de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Avant d'évoquer toutes ces questions avec vous, on va d'une certaine manière poser le décor, l'effroyable décor, place à notre retour d'eux en association avec le prix Albert Londres, le journaliste qu'on reçoit ce matin. Et justement, prix Albert Londres, c'est Luc Mathieu. Bonjour Luc Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Libération, vous revenez tout juste de Gaziantep, à une cinquantaine de kilomètres d'Alep, donc du côté de la Turquie, Alep qui continue de subir les bombardements, probablement les plus intensifs depuis le début du conflit, missiles, barils d'explosifs et autres bombes au phosphore larguées par des appareils syriens et russes qui continuent de tomber sur les civils, toujours pris au piège dans une ville assiégée. Luc Mathieu, combien de temps Alep pourra-t-elle tenir avec cette intensité de bombardements, sachant qu'on ne peut plus ravitailler la population?
Le conseil provincial d'Alep, Liban, on appelle ça Liban, parce que c'est les zones administrées par les rebelles, ils disent qu'ils peuvent tenir un mois et demi avec les stocks qu'ils ont fait rentrer cet été, quand le siège a été brisé pendant quelques semaines. Donc ils en ont profité, et ça permettrait de tenir un mois et demi. Mois et demi.
Ce que vous explique Assad Al-Ahabi, qui est directeur d'une ONG syrienne qui s'appelle Shafak, c'est que la stratégie, c'est finalement d'épuiser les civils, de détruire les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, les marchés, et ensuite d'organiser l'évacuation de la population pour enfin repeupler avec des gens qui soutiennent le régime.
C'est ça. C'est une stratégie qu'ils ont déjà mis en place à Homs en ce moment, à Daraya, qui est en banlieue de Damas. Et ils veulent faire ça à Alep. La grosse différence, c'est la population qui est là-bas. C'est-à-dire qu'à Alep, on parle de 250 000, 300 000 personnes à l'intérieur des quartiers assiégés. Daraya, à la fin, il restait 8 000 personnes. Ça a pris 4 ans au total. Ils ont bombardé sans répit pendant 4 ans. À Alep, il y a beaucoup plus de gens. Il y a beaucoup plus de rebelles armés aussi à l'intérieur des quartiers assiégés. Donc c'est pas du tout la même ampleur. Et là, on voit, ils ont essayé de... Ils ont avancé un peu au sol il y a quelques jours, mais ils ont pris un tout petit quartier dans le centre, dans la vieille ville. Mais après, reprendre, aller s'enfoncer vers l'est et vers le nord, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux.
Finalement, c'est une stratégie qui n'est pas si différente de celle qu'avait utilisée le père, Hafez al-Assad, en 1982, avec Hama. Là aussi, pour mater l'insurrection des frères musulmans, en l'occurrence, on avait imposé un siège pendant plusieurs semaines, ça avait fait plus de 10 000 morts, même, on peut multiplier par 4 quand on voit les chiffres les plus alarmants, mais c'est pas très éloigné, en fait.
Non, mais c'est une stratégie qui est vieille comme la guerre, hein. Je veux dire, c'est assiégé, on épuise, on bombarde, et après on ouvre des couloirs. Les couloirs, après, les Syriens qui sont à l'intérieur d'Alep, avec qui j'ai parlé, pour eux, ils refusent absolument même l'idée de sortir côté régime, parce qu'ils disent on va pas revenir, on va être envoyé dans des prisons directement, ou assassiné. Donc après, il y a des replis possibles vers Idlib, à l'ouest, ou vers le nord, vers la frontière turque, mais pour l'instant, ils veulent pas partir.
Ouais, donc l'hypothèse d'une évacuation totale d'Alep vous paraît aujourd'hui, en tout cas de ce que vous avez entendu des Syriens réfugiés à Gaziantep, vous paraît pas possible?
Non, pas pour l'instant. Ouais. Après, il faut voir au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois de bombardement, comment sera la population, mais pour l'instant, non.
Est-ce que vous pensez que le régime peut reprendre le contrôle d'Alep et par là même s'assurer cette fameuse mainmise sur cette Syrie utile dont on parle beaucoup, c'est-à-dire à l'ouest avec Damas, Homs, Hama, etc.
C'est toujours très compliqué, moi, je trouve, de faire des prévisions, surtout à cette échelle-là, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Militairement, ça me paraît très compliqué, parce que l'armée syrienne, elle est quand même vraiment pas vaillante. Les Russes, ils vont peut-être pas envoyer non plus des milliers de soldats au sol. Après, il y a toutes les milices, Hezbollah libanais, les milices irakiennes, les milices afghanes aussi. Mais c'est pas des combattants côté afghan, c'est pas des combattants hors pair. Mmh. Militairement, ça me paraît compliqué. Mais...
En août dernier, les djihadistes du front al-Nosra, qui a été rebaptisé depuis le front Fatah al-Sham, et les combattants d'Ahrar al-Sham sont parvenus à percer des lignes dans les forces loyalistes, à entrer par le sud. Finalement, les forces loyalistes ont repris le dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il serait envisageable militairement de casser le siège ?
Bah, ils vont essayer. Mais en fait, cette histoire de siège qui a été brisé puis réinstallé, c'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que ça a été repris. Enfin, le siège a été réinstallé à la fin août. Ou début septembre, parce que des rebelles étaient partis sur un front qui est beaucoup plus à l'est avec les Turcs pour aller se battre contre l'État islamique. Donc il y avait toutes les brigades de l'ASL, Nouruddin Adinki, Felak al-Sham, qui étaient là-bas, qui combattaient avec effectivement le front al-Nusra et avec Ahrar al-Sham, qui ont basculé vers ce nouveau front. Et pendant ce temps-là, le régime en a profité pour remettre le siège. Donc aujourd'hui, ils essayent de le recasser. Le problème, c'est que c'est la bande de loyalistes en fait, qui entourent Alep est quand même très large maintenant.
Mmh. Donc ça va être... Pendant très longtemps, Alep, c'est resté vraiment la place forte de la rébellion syrienne. Et il y a évidemment eu l'année dernière l'entrée dans le conflit de la Russie, qui a envoyé son aviation. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde à ce point l'avantage ? Est-ce que l'intervention de l'aviation russe explique à elle seule le basculement du rapport de force ?
Oui, l'implication russe, oui, clairement. Bien sûr, clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que, un, c'est des avions, c'est des hélicoptères, c'est des conseillers. Et puis après, c'est eux qui gèrent quand même le côté tactique de l'affaire. Donc oui, leur implication est déterminante dans la reprise du siège d'Alep.
Ouais. Oui, donc on ne peut pas à nouveau espérer rebasculer dans l'autre sens.
La clé, c'est les Russes, oui. Ouais. Si, alors là, il y a un front qui s'ouvre à Hama, et les rebelles sont vraiment pas loin de la ville de Hama. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les campagnes. Mais là, ils se rapprochent de plus en plus de Hama. Alors s'ils vont attaquer Hama, en même temps ça va rouvrir un nouveau front, et Hama est une ville essentielle pour le régime aussi. Donc est-ce qu'ils vont rebasculer leurs forces vers Hama pour protéger, ou est-ce qu'ils vont continuer à Alep ? Ça, j'en sais rien, mais...
On va revenir peut-être sur l'attaque du fameux convoi humanitaire. Vous étiez à Gaziantep justement quand, à la faveur de cet accord russo-américain, la trêve avait été décrétée, et donc des convois avaient été envoyés pour ravitailler les populations, notamment les population des campagnes situées à l'ouest d'Alep, sauf que très rapidement, il y a eu cette attaque de ce convoi de Nations Unies et du Croissant-Rouge, 18 camions détruits sur les 31 qui étaient envoyés. On s'est immédiatement interrogé, bien sûr, sur l'origine de l'attaque. Pour les Syriens, il n'y a absolument aucun doute sur l'origine de cette attaque.
Non, aucun. Moi, j'ai parlé avec des voisins, si on peut dire, de l'attaque, habités à 500 mètres. Qui ont décrit ce qui s'est passé, et tout concorde, c'est-à-dire qu'il y a eu des bombardements aériens. Alors, est-ce qu'il y a eu d'abord des hélicoptères ou après ? Il y a eu apparemment les deux, à la fois hélicoptères, à la fois jets et missiles, et donc ça peut être que le régime syrien, ou que les Russes, ou les deux.
Ou les deux, l'hypothèse les deux. D'ailleurs la plus probable, visiblement, oui, c'est les deux, c'est-à-dire c'est l'aviation russe combinée à des frappes des hélicoptères syriens.
Ouais, ça serait ça, parce que tous les Syriens m'ont dit les frappes avec les missiles étaient très précises. Et en général, le régime syrien, c'est pas très précis, c'est plutôt des barils qui tombent un peu n'importe où. Là, ça a vraiment tapé le convoi et le hangar qui est à côté. Donc ils pensent que vraiment, c'est des Russes. Ouais.
Ce qu'on lit aussi dans votre papier, c'est que juste avant l'attaque, il y avait déjà eu des bombardements dans le quartier d'Alep, alors qu'ils avaient cessé depuis plusieurs jours.
Ouais, le cessez-le-feu...
Avant l'attaque du convoi.
Avant l'attaque du convoi, alors qu'ils discutaient d'ailleurs à New York, je crois. Ouais, le siège, en fait, le cessez-le-feu a vraiment pas tenu. Il a tenu en vrai trois jours et demi. Mais on l'a vu, dès le lundi, on voyait que ça marchait pas, parce qu'il y avait cette histoire de convoi, alors un autre convoi humanitaire, qui devait rejoindre les quartiers assiégés d'Alep. Un convoi de l'ONU, 40 camions. Alors c'était prévu, c'était très organisé, il y avait deux fois 20 camions en fait. Et le convoi a jamais pu franchir la frontière syrienne. Il est resté dans la zone tampon à Bab el Hawa, qui est le poste frontière. Et il y a eu sans arrêt des discussions avec le régime syrien, avec les Russes, avec les Américains. Et le convoi n'est jamais rentré. Donc, et voilà, et une semaine après, il bombarde un convoi humanitaire qui part du quartier contrôlé par le gouvernement d'Alep. C'est-à-dire que c'est des loyalistes qui ont surveillé les chargements du camion. Et ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est un convoi qui est mensuel, en gros. Qui part vers l'ouest, à peu près à 10 km. Et là, il y a un centre logistique où ils stockent les vivres, les médicaments.
Et après, le hangar d'ailleurs a été également touché.
Oui, le hangar a brûlé. Tout était connu. C'était une route connue, c'était des camions connus, c'était des lieux de stockage connus, donc il n'y avait aucune surprise. L'argument, ils ont mis plein d'arguments différents, après ils ont dit qu'il y a des rebelles qui avaient mis des armes. Mais ça ne tient pas, parce que le convoi...
Oui, parce que justement, quelques heures après l'attaque, les Russes ont diffusé des images qui visiblement sont prises d'un drone.
Un drone, oui.
Sur lesquelles on voit un pick-up avec ce qui serait peut-être derrière un engin mitrailleur. Quel crédit apporter à cette thèse d'une explosion? En fait, ce qu'ils disaient, c'est que c'était une explosion qui venait du sol, en gros.
Oui, mais sauf que ça ne tient pas, parce qu'il y a tellement de témoignages qui font état de bombardements aériens qui ont duré 2 heures au total. Hein. Ça n'a pas duré 10 minutes. Donc, ce n'est pas les témoignages qui manquent, franchement. Et après, les dégâts qui ont été faits sur le convoi, ça correspond, ça a été analysé. Il y a même des restes d'obus de l'armée syrienne, pour la peine. Il y a des cratères, et donc il n'y a pas de doute sur l'origine.
Le chef du Croissant Rouge est décédé.
Oui, le chef local est décédé. En fait, il est décédé parce qu'il était blessé. Et comme les bombardements ont continué à peu près 2 heures, il semblerait 1h30, 2 heures, ils n'ont pas pu l'évacuer. Donc il est mort de ses blessures, en fait.
Vous étiez sur place au moment du début du cessez-le-feu. Est-ce qu'à ce moment-là, on croit justement à un cessez-le-feu durable, ou est-ce qu'on sait qu'à un moment ça va s'arrêter ?
Non, personne n'y croyait.
Personne n'y croyait.
Aussi bien côté rebelle, moi j'ai eu plusieurs chefs rebelles, enfin ou conseillers rebelles, qui naviguent entre la Turquie et la Syrie, et côté humanitaire aussi. C'est-à-dire, aucun n'y croyait, parce que les précédents n'ont jamais marché. Enfin, le dernier, c'était en février, il a duré un peu plus d'un mois. Mais à chaque fois, il était cassé, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça vient régulièrement du gouvernement syrien avec des bombardements, donc personne n'y croyait.
Ça fait longtemps, Luc Mathieu, que vous vous rendez dans la région pour couvrir ce conflit syrien. Est-ce qu'on continue de vous livrer des témoignages, ou est-ce qu'il y a quand même un ras-le-bol? Finalement, on essaye d'alerter l'opinion internationale à travers les reporters dont vous faites partie, sans que ça n'ait aucun effet.
Alors, moi, ils me parlent parce qu'ils me connaissent, comme je vivais régulièrement. Mais effectivement, il y a un désespoir, et c'est plus qu'un ras-le-bol, c'est un énervement profond. C'est-à-dire, on dit communauté internationale, ils disent on ne veut pas entendre. Enfin, on n'écoute plus. Quelle communauté internationale? En fait, mais même dès 2012 à Alep, là, pour la peine, quand les rebelles étaient rentrés, après il y a eu la riposte du régime qui était faite essentiellement aussi de bombardements. Et très vite, les civils à l'intérieur d'Alep me demandaient, moi qui étais, ils me disaient, mais on ne comprend pas pourquoi personne ne nous aide. Parce qu'ils avaient vu la Libye, bien sûr, ils avaient vu la Tunisie, l'Égypte. Et pour eux, là, en plus, là, avec l'avancée rebelle dans la ville, ils étaient persuadés que. Alors que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, peu importe, pour eux, c'est pas tellement la question, aller les protéger. Et c'est pas arrivé. Et après, tout ça a culminé jusqu'en 2013, l'été 2013, avec la ligne rouge, les bombardements chimiques dans la Routa, où là, ils étaient persuadés qu'il y aurait une intervention américaine qui finalement n'a pas eu lieu. Et depuis, à chaque fois, c'est pire. Je veux dire, Alep, aujourd'hui, il y a quand même des bombes au phosphore. C'est quand même quelque chose de particulier. Il y a eu des bombardements au chlore, qui font très peu de victimes, au final, mais qui terrorisent quand même. Là, maintenant, ils ont des bombes qui perforent, en fait, anti-bunker, qui sont capables. Un missile comme ça, ça fait écrouler un immeuble. C'est arrivé il y a 2 jours à Alep. Ça fait écrouler un immeuble de 5 étages. Et ça crée un cratère de 15 mètres de large. Et donc, eux, ils voient ça. Donc, l'ONU est discréditée, alors là, pour la peine, depuis encore plus longtemps, via la branche humanitaire au début, puis politique. D'ailleurs, ils étaient persuadés, là, à Gaziantep, les conseillers que je voyais, que de Mistura allait démissionner, après l'affaire du convoi. Et il semblerait qu'il ait hésité, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais, donc, il y a vraiment une défiance.
Est-ce qu'il voudrait le voir sur le terrain, Mistura?
Non, mais de Mistura, pour eux, c'est vraiment... Il ne sert à rien. Il sert à rien, ils ne connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu. Alors ils connaissent son équipe, qui est à Gaziantep, mais ils n'ont aucun... Et puis, si vous voulez, le caractère particulier du dernier cessez-le-feu, c'était que les conditions étaient secrètes. C'est-à-dire qu'il y avait un accord russo-américain, mais les gens ne savaient pas ce qu'il y avait dans l'accord. Alors il y avait plein qui me disaient, il y avait à la fois des côtés très très concrets sur comment un convoi humanitaire devait passer avec les distances de soldats... Ça, ils savaient, mais ils ne savaient pas le cadre général. Et donc, pour eux, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire des accords? On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. De quoi on nous parle? Comment voulez-vous qu'un cessez-le-feu comme ça tienne? Alors, il y en avait qui me disaient, dans une semaine, le régime syrien n'aura plus le droit de bombarder. Les avions vont être coulés au sol. D'autres me disaient, mais non, c'est dans 15 jours. D'autres, en fait, ils ne savaient pas. Et donc, le cessez-le-feu était d'autant plus enterré dès le début. On ne peut pas faire un accord avec des gens qui sont bombardés et leur dire, mais en fait, on ne vous dit pas ce qu'il y a dans l'accord. Ce n'était pas possible pour eux. Plus l'exigence fait aux rebelles de dire vous dissociez de Fatah al-Sham, donc l'ex-Front al-Nusra, Al-Qaïda, pour eux, c'est même pas envisageable. Ils ne peuvent même pas y penser. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'on va aller ouvrir un nouveau front contre des Syriens? Parce que, à la différence de l'État islamique, Fatah al-Sham, c'est quand même essentiellement des Syriens qui se battent contre le régime, et qui se battent plutôt bien. C'est eux qui ont cassé le siège d'Alep. Et ils collaborent sur plein de lignes de front. Ils collaborent. Alors, l'administration, maintenant, le front Fatah al-Sham s'est mis en retrait, parce qu'il y a eu des problèmes dans la province d'Idlib. Donc, ils sont plus trop présents dans l'administration de la vie civile. Mais ils sont présents dans tout le nord, sauf avec les Turcs, mais ils sont présents sur plein de lignes de front. Donc, les rebelles historiques de la rébellion, ils ne peuvent pas dire on va se battre contre eux. Ils n'ont pas les moyens, déjà, de se battre contre eux. Et puis, s'ils se battaient contre eux, ça les affaiblirait, bien évidemment, face au régime.
Luc Mathieu, militairement, c'est bloqué. Diplomatiquement, c'est bloqué. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce qui les fait tenir?
Ils tiennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Eux disent qu'il n'y a rien. On ne voit aucun espoir, aucune sortie. Ils sont restés sur la même ligne qui est il faut faire tomber Bachar al-Assad. Donc ils continuent parce qu'ils n'ont pas le choix, de toute façon.
Réaction peut-être ici en plateau, Camille Grand, Serge Sûr, Marc Semo, avant d'aborder vraiment le volet diplomatique. Camille Grand.
En écoutant Luc Mathieu, moi je pensais à un autre précédent qui est le siège de Grozny. En Tchétchénie, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la Russie applique une méthode qu'elle a éprouvée dans ce contexte-là, qui est finalement de gagner par à la fois la violence et la lassitude, c'est-à-dire d'arriver à une situation dans laquelle la vie devient tellement intenable, et d'ailleurs on voit que les cibles ne sont pas essentiellement des cibles militaires, qu'il s'agit de rendre la vie invivable à Alep, pour espérer que, au fond, le système s'effondre par à la fois la fuite des habitants qu'ils peuvent la tour de reddition par fatigue extrême de la population qui reste et des quelques combattants qui sont là. C'est évidemment un modèle qui est un peu préoccupant si c'est ça le modèle de sortie de crise pour la Syrie.
Serge Sûr.
Oui, je crois qu'en effet, on ne peut pas douter du cynisme russe. Mais on ne peut pas non plus douter du cynisme américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que le cessez-le-feu, le Pentagone n'en voulait pas. Il a été conclu par Kerry et Lavrov, et le Pentagone a immédiatement fait des réserves. Et qu'ensuite, il y a eu le bombardement de l'armée syrienne, qui a fait, si je me souviens bien, à peu près 80 victimes. Et là est le point de départ de la rupture du cessez-le-feu. Le convoi humanitaire, c'est une réplique à ça. Et donc, au fond, dans la rupture du cessez-le-feu, à mon avis, il y a une responsabilité partagée de la Russie, bien sûr, mais aussi des États-Unis. Et bien sûr, ce qui se passe à Alep est tout à fait effrayant, inquiétant, et il faut s'en alarmer. Mais on nous parle déjà de l'assaut contre Mossoul. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Mossoul? Quand on a souri à Alep, on risque de rire beaucoup à Mossoul. Hein. Parce que c'est pareil, on ne veut pas mettre de troupes au sol, donc ce sera des bombardements. Et est-ce que vous pensez que les bombardements en Libye, par exemple, qui ont eu lieu il y a quelques années, n'ont tué personne? Que les bombardements en Irak n'ont tué personne? Que les bombardements qui ont été faits par les Occidentaux en Irak et en Syrie n'ont tué personne? Alors malheureusement, je crois que dans cette affaire où tout le monde est l'ennemi de tout le monde, il faut un peu renvoyer les gens dos à dos et ne pas se polariser sur un seul pays.
Merci beaucoup, en tout cas, Luc Mathieu, d'être passé dans nos studios. Je rappelle, donc, journaliste pour Libération, prix Albert Londres, c'était l'année dernière. Vous avez d'ailleurs reçu.
Ans.
Il y a deux ans. Ah, le temps passe vite. On vous avait reçu pourtant.
Non, c'était l'année dernière.
2015.
Tout à fait.
On est d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on peut bien sûr relire tous vos articles sur le site de Libération. Merci infiniment.
Merci.
Cette émission, on va poursuivre d'ailleurs sur ce conflit syrien, s'intéresser vraiment à la question purement diplomatique. La Syrie enterrera-t-elle les Nations Unies? C'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Il y a quelques jours, la diplomatie internationale se retrouvait à New York, je le disais tout à l'heure, pour évoquer les grands problèmes du monde et évidemment le conflit syrien avec en son cœur Alep, on l'entendait juste à l'instant avec Luc Mathieu, une ville qui subit le feu venu du ciel, craché par des avions et des hélicoptères du régime, épaulé par l'indispensable allié russe qui, depuis son arrivée dans la bataille il y a tout juste un an, fait tout pour maintenir le statu quo, malgré les critiques des diplomates occidentaux.
Ce symbole de la civilisation est l'objet d'un siège de type médiéval. Mesdames, Messieurs, quelle régression et franchement, quelle honte.
We have also seen reports of armed opposition groups firing hellfire rockets.
Nous avons consulté des rapports indiquant que des groupes d'opposition armés emploient des missiles Hellfire. Vous savez ce que c'est? Ce sont en fait des bombes de gaz remplies de pierres et de morceaux de métal projetées de manière assez rudimentaire au-delà des lignes de front et tuent beaucoup de civils. Mon appel à ce conseil est le suivant. S'il vous plaît, développer un plan d'action commun afin d'imposer la cessation des hostilités en Syrie. Je reste persuadé que nous pouvons encore renverser le cours des événements.
Ce que la Russie soutient et fait, ce n'est pas de la lutte antiterroriste, c'est de la barbarie.
Ce que la Russie fait et soutient à Alep, ce n'est pas de la lutte antiterroriste, c'est de la barbarie. Voilà ce que disait Samantha Power, ambassadrice américaine aux Nations Unies. On entendait également François Delattre, l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, et Staffan de Mistura. Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie. Alors que la trêve établie à la faveur d'un accord entre Moscou et Washington a volé en éclats, on en parlait à l'instant. Les Nations Unies ont été, on l'a vu, le théâtre sur lequel s'est étalée toute l'impuissance de la communauté internationale à ramener cette paix en Syrie. On va s'interroger sur les limites de l'action onusienne avec nos deux invités Serge Sûr et Camille Grand, et bien sûr nos partenaires du monde en la personne de Marc Semo. Marc, vous étiez justement à New York pour couvrir cette réunion du Conseil de sécurité. Il y a eu des mots très durs à l'égard de la Russie, on l'entendait. Nombre de chefs d'État, de diplomates à l'égard de ce drame syrien. On a entendu des accusations de crimes de guerre à l'endroit de Moscou, de la part de la France, mais aussi de la part de la Grande-Bretagne, ce qui, dans un autre contexte, aurait pu d'ailleurs provoquer un incident diplomatique grave. Le poids des mots, il a été aussi fort que l'impuissance à arrêter le massacre écriant, finalement. D'un côté, on a des Occidentaux qui s'offusquent toujours plus de cette attitude de la Russie, et de l'autre, on a des Russes qui restent parfaitement stoïques, mais qui, sur le terrain, font la différence et décident seuls du sort des Syriens, Marc.
Oui. Alors, de fait, ce n'est pas l'ONU qui est en train de mourir à Alep, mais c'est plutôt une certaine idée des États-Unis, voire des Occidentaux en général. Hein. Le Conseil de sécurité, ce sont les grandes puissances avec le droit de veto. Et effectivement, les Occidentaux aujourd'hui sont dans une impuissance totale, au-delà des mots, hein, qui n'ont jamais été aussi forts au Conseil de sécurité depuis peut-être la fin de la guerre froide. Au-delà des mots, ils sont impuissants face à une Russie qui est totalement maître du jeu, hein, comme le rappelle volontiers Camille Grand, ici présent, avec très peu de moyens, très peu d'hommes, très peu d'avions. En un an, les Russes ont totalement changé la donne sur le terrain. Alors officiellement, c'est ce qu'avait annoncé Poutine il y a un an aux Nations Unies, il s'agissait de combattre l'État islamique. Dans les faits, il s'agissait de sauver le régime. Hein, plus de 80% des frappes menées par l'aviation russe ont visé les rebelles anti-Assad, mais non pas les djihadistes. Et en même temps, Moscou a enclenché un processus diplomatique coparrainé avec Washington. Pour Moscou, c'était l'occasion de redevenir, comme au beau temps de la guerre froide, l'autre grand. Mais ce processus diplomatique, avec une résolution, la seule sur la Syrie, consistante, la 2254, prévoyait un processus de transition politique après un cessez-le-feu. Bon, dans les faits, ces négociations côté régime n'ont jamais réellement débuté. On peut se demander si effectivement tout le but de ce processus lancé par la Russie n'était pas de gagner du temps pour créer une situation irréversible sur le terrain. Alors aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que peuvent faire les Occidentaux? Imposer une no-fly zone au nord de la Syrie, sur Alep, c'est impossible. Hein. Désormais, les Russes sont totalement maîtres du ciel syrien, à la fois avec leur système de défense anti-aérien et leurs avions. Livrer des missiles anti-aériens à l'opposition, c'est quand même très dangereux, compte tenu du fait que l'opposition est en train de se radicaliser. Prendre sa revanche sur d'autres terrains, type en ouvrant l'OTAN à l'Ukraine ou à la Géorgie, c'est quand même très difficile. On peut imaginer que les Américains vont lancer des choses sur Mossoul, comme on en parlait tout à l'heure, histoire un peu de faire d'avoir une grande victoire contre l'État islamique pour faire oublier le reste. Mais de fait, on est dans une situation qui est peut-être la plus grande défaite des Occidentaux face à la Russie depuis très très longtemps. C'est en tout cas la crise la plus grave depuis les missiles de Cuba en 62.
Camille Grand, Serge Sûr tout à l'heure rappelait la responsabilité américaine. Marc Semo vient là aussi de dire que c'était peut-être d'abord et avant tout la défaite des États-Unis, mais moi je vais me reconcentrer sur les Nations Unies. Staffan de Mistura déclarait à propos de l'attaque dont on parlait il y a un instant, notre indignation face à cette attaque est énorme. Le convoi a été le résultat d'un long processus d'autorisation et de préparation pour venir en aide à des civils isolés. Ça sonne quand même comme une provocation au moins, voire même une humiliation à l'égard des Nations Unies quand même, Camille Grand.
On voit que les Nations Unies, étant en quelque sorte dans l'incapacité de porter un processus politique de discussion, et c'est évidemment le drame de la situation, c'est-à-dire qu'on voit que Stéphane Mistura, sur le volet politique de sa mission, ne peut pas avancer, n'a pas la confiance des partis, et que finalement les seules choses qui se passent sur le front diplomatique se passent dans un contexte russo-américain dont on a décrit à l'instant les limites et l'incapacité de délivrer quoi que ce soit. Donc, comme c'est souvent le cas, dans ce cas, les Nations Unies se translatent sur le plan humanitaire, où là, l'indignation est possible, est souhaitable d'ailleurs, et où finalement, la parole des Nations Unies est entendue, mais finalement, c'est des Nations Unies qui sont réduites en quelque sorte au rôle d'ONG et de porte-parole des victimes civiles. Ce qui est.
La déploration.
Voilà, ce qui n'est pas mal d'entendre les Nations Unies sur des points précis dire à quel point les frappes sur les civils, les attaques de convois humanitaires sont inacceptables, mais qui n'offrent aucune solution politique pour pouvoir avancer vers, sans même parler de paix, un cessez-le-feu un tant soit peu durable.
Serge Sûr, vous voyez ce que dit Camille Grand, il dit finalement les Nations Unies aujourd'hui c'est une super ONG.
Non mais nous sommes d'accord, c'est le cœur antique de la tragédie grecque qui accompagne les événements et qui les déplore. Maintenant, moi je voudrais peut-être revenir sur le thème général de votre émission et sur les Nations Unies face à ce type de crise. Alors, ça n'est pas la première, si je puis dire, c'est une répétition. On a connu ça des dizaines de fois, où le Conseil de sécurité se trouvait paralysé par le veto. Ça ne l'invalide en aucune façon. Et je dirais même qu'au contraire, le système de sécurité collective de la Charte, il a été prévu pour ces hypothèses. C'est-à-dire que dans ces cas-là, le Conseil de sécurité se trouve désactivé. Mais en même temps, il conserve sa capacité ultérieure d'action. Et on a annoncé la mort du Conseil de sécurité et du système de sécurité collective des dizaines de fois. Il n'empêche que, dans des situations comme celle de l'invasion du Koweït, comme celle de la remise sur pied du Kosovo, il a pu fonctionner et il pourra fonctionner à l'avenir. Simplement, il se trouve dans une situation particulière où il y a l'opposition entre les membres permanents qui le paralyse. Mais de façon plus générale, le Conseil de sécurité, il a la capacité d'être un directoire de la société internationale. C'est-à-dire que lorsqu'il a décidé, tout le monde doit s'y plier. Et dans la lutte contre le terrorisme, il a adopté de très grandes résolutions en 2001. Qui sont toujours en vigueur et qui constituent un programme universel de lutte contre le terrorisme. Par exemple, c'est donc un architecte, je dirais. Vous voyez, c'est un directoire et en même temps, c'est un architecte. C'est-à-dire qu'il peut construire des programmes et les exécuter. Lorsque l'Irak a été conquis, occupé en 1991, le Conseil a adopté une grande résolution qui a créé tout un système d'inspection, de mise sous surveillance de l'Irak, qui a fonctionné.
Mais attendez, qu'est-ce qu'il peut construire pour la Syrie ?
Alors pour la Syrie,
il ne peut pas construire la paix, il ne peut pas construire l'aide humanitaire, mais qu'est-ce qu'il peut faire ?
Non mais ça je vous dis que pour la Syrie, il faut considérer qu'il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Et il ne sert effectivement qu'à enregistrer les déplorations et à des manœuvres diplomatiques pour montrer l'isolement de la Russie. Mais ceci étant, je pense que la responsabilité principale est celle des États-Unis. Avec le discours sur les lignes rouges, à partir du moment où ce discours n'a pas été suivi des faits, les États-Unis se sont retirés et ils ont laissé le champ libre à la Russie.
Oui. Il faut rappeler, le discours sur les lignes rouges, c'est l'été 2013, lorsque Barack Obama a dit...
L'idée que si la Syrie emploie les armes chimiques,
il y aura une intervention.
Une ligne rouge. Oui. Et à partir de là, tout le monde a pensé qu'il y aurait une intervention, et même la France s'y était préparée. Et la France était résolue à y participer.
Et les Britanniques aussi ont fait marche arrière.
Et les États-Unis, oui.
Et la Russie en a profité pour mettre en place un accord de démantèlement des armes chimiques syriennes. Marc Sémo.
Oui, mais là, on est dans une situation où, effectivement, le Conseil de sécurité, comme vous le disiez, va entériner, à un moment ou à un autre, prendra quelques semaines, voire plutôt quelques mois, un résultat sur le terrain.
Mais j'ajoute que...
Avec le fait qu'à très court terme, on ne voit absolument pas ce qui, aujourd'hui, permettrait... aux Américains de reprendre la main, non, y compris sur le plan diplomatique. Obama est en fin de mandat, Kerry a perdu toute crédibilité. Donc voilà. En plus, le prix du pétrole, après l'accord à l'OPEP, risque de remonter, ce qui va donner un peu plus d'oxygène à la Russie. Donc finalement...
Vous êtes en train de dire que le processus de Vienne est mort, en fait.
Le processus de Vienne est mort.
C'est ce que vous disiez dans un article.
Voilà.
J'ajoute que la paralysie du Conseil de sécurité n'empêche pas, le cas échéant, les Occidentaux d'agir. On l'a bien vu au Kosovo. Au Kosovo, on avait la même situation où la Russie voulait bloquer toute action du Conseil de sécurité. Eh bien, il y a eu une intervention quand même. Donc, si on avait voulu intervenir en Syrie, on pouvait parfaitement se passer de l'aval du Conseil de sécurité. Simplement, on ne veut pas le faire.
Camille Grand.
Non, je crois que Serge Sion a raison de rappeler que le Conseil de sécurité continue à fonctionner sur d'autres dossiers. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu récemment un train de sanctions sur la Corée du Nord, des discussions. Il y a toutes les semaines des résolutions qui prolongent, développent des missions de maintien de la paix en Afrique, etc. Donc on a cette situation un peu paradoxale où la paralysie du Conseil de sécurité, en ce moment, se concentre pour l'essentiel sur le dossier syrien, avec un veto russe répété sur ce dossier qui est utilisé dès que les Occidentaux font mine de faire voter...
Une menace de veto, parce que voilà. En fait, il n'y a jamais eu de veto.
Oui, non, mais cette menace suffisant à bloquer le dispositif. En revanche, il y avait eu usage du veto sur la Crimée. Donc la situation des membres permanents du Conseil de sécurité leur permet... de, effectivement, débrancher, en quelque sorte, le Conseil de sécurité quand il le souhaite. Une fois qu'on a dit ça, la question, effectivement, se déporte vers ce que peut faire la communauté internationale, et c'est un mot bizarre qui n'a effectivement plus beaucoup de crédit auprès de la population syrienne, pour essayer de sortir de ce dispositif. Ce qui est quand même très frappant, me semble-t-il, c'est effectivement une situation de discrédit des Américains, double discrédit stratégique, puisqu'ils ne sont pas intervenus aux différents moments où il était possible d'intervenir, et qui sont aujourd'hui dans une situation où une intervention militaire serait extraordinairement compliquée, même avec des objectifs très limités, de type zone d'exclusion aérienne, les fameuses no-fly zones qui sont un classique de la gestion de ce type de crise. Aujourd'hui, c'est se confronter à l'aviation russe et aux défenses solaires russes. Marc Semo le rappelait, que d'essayer de mettre en place ce dispositif qui est généralement minimal dans ce type de crise. Deuxième élément, sur le plan diplomatique, l'espoir répété de Kerry de trouver avec Lavrov un terrain d'entente a été... pour la troisième fois, clairement démenti. C'est-à-dire qu'on a un Kerry qui, de ce point de vue-là, est assez démonétisé, non seulement aux yeux des Syriens, mais même aux yeux de l'administration américaine. On a vu que le président Obama et le Pentagone avaient pris leur distance vis-à-vis de cette initiative qu'ils jugeaient poliment, avec peu de chances d'aboutir. Donc on est dans une situation où, militairement, le régime et ses appuis russes ont assez largement repris la main sur le terrain, sont à l'offensive, même si les troupes de Bachar el-Assad sont elles-mêmes exsangues. Finalement, c'est peut-être là que se trouve le seul espoir, c'est-à-dire qu'on est la paix par la lassitude extrême de tous les camps et de la population.
La paix par la lassitude, Camille Grand, mais peut-être aussi la paix par le bas. On voit bien que les négociations ne donnent rien. Le processus de Vienne, Marc Semo nous le disait, finalement est mort. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de méthode, tenter de faire émerger cette fameuse paix par le bas, en négociant directement sur le terrain? Voilà, on essaye d'avoir des trêves comme ça un peu éparses qui, à terme, font émerger, disons, une paix globale. Et dans cette hypothèse-là, est-ce que précisément Staffan de Mistura, envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, pourrait, devrait jouer un rôle?
Alors, il a beaucoup essayé de faire ça. Hein, ça a été sa ligne, en particulier dans la période 2014-2015, d'essayer de trouver des micro-cessez-le-feu, des accords humanitaires dans des zones très précises et des choses comme ça. Hélas, on peut dire que ça n'a pas porté ses fruits au-delà de quelques jours ou quelques semaines au mieux. Et donc, l'idée...
Est-ce que c'est une raison pour cesser? Est-ce que si là, il allait directement à Alep, ça ne serait pas un symbole fort, peut-être de nature à faire avancer les choses? Si là, il va à Alep?
Alors, c'est la tentation qui existe souvent chez les envoyés spéciaux des Nations Unies de dire, je vais essayer de... C'est pas la méthode de travail de Staffan de Mistura, qui ne fait pas partie de ces envoyés spéciaux qui se mettent en scène ou en risque dans ce type de situation. En même temps, je suis assez convaincu que ça ne changerait pas grand-chose à la situation sur le terrain aujourd'hui. On aura une image de l'envoyé spécial des Nations Unies dans les rues d'Alep.
Mais on n'aura pas d'effet.
Mais je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup d'effet.
Serge Sûr et puis Marc Semo. Serge Sûr.
Oui, je crois en effet qu'il n'aurait pas beaucoup de chance d'aboutir et qu'il pourrait à la rigueur même connaître le sort de Sergio de Mello, oui, qui était en Irak et qui s'est fait tuer. Donc il n'est peut-être pas trop souhaitable pour lui qu'il se mette en avant. Il me semble que vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que la paix peut résulter d'une sorte de lassitude, d'épuisement général des combattants. C'est ce qui s'est produit en Yougoslavie il y a maintenant une vingtaine d'années. On a attendu que les combattants soient bien fatigués, épuisés, et on leur a imposé la paix. Alors aujourd'hui, qui peut imposer la paix? D'abord, je crois qu'elle passe par l'idée que Assad ne peut pas quitter le pouvoir. Ça, c'est pas agréable à entendre pour nous Français, puisque nous avons conçu notre politique sur l'élimination d'Assad. Mais qui veut le départ d'Assad? Les États-Unis n'en veulent pas tellement. Israël n'en veut pas. Évidemment, la Russie le soutient fortement. Donc il me semble qu'une solution politique passe par un accord entre les États-Unis et la Russie, et que dans cet accord, Assad aura sa place, me semble-t-il. C'est peut-être regrettable, mais à mon sens, c'est ainsi.
Marc Semon.
Non, pour rester dans cette vision réaliste, pourquoi pas? Mais le problème... Poser la question. La victoire, la reconquête totale par Assad de la Syrie est impossible.
Oui.
Tout le monde est d'accord. Absolument. Donc la question est celle de la reconquête d'une Syrie utile, hein, dont Alep, qui effectivement ferait quelque chose, qui plus ou moins tiendrait la route. Mais est-ce que réellement celle-là même est encore possible? On le voit, le régime a réussi à tenir grâce à l'intervention russe, parce qu'il était déjà au bord de l'effondrement il y a un an. Même aujourd'hui, jusqu'à quand les Russes pourront continuer à envoyer des mercenaires, hein, parce que ce sont surtout les mercenaires qui sont, même si c'est des soldats liés au système militaire russe, des milices iraniennes ou du Hezbollah. Est-ce que même cette Syrie utile est viable, ou est-ce qu'on risque, est-ce que ça pourra rester, donc dans ce cas-là, une espèce de conflit de basse intensité qui durera des années, ou bien même ça n'est pas possible? Parce que c'est quand même aujourd'hui difficilement imaginable, on le voit, Luc en parlait tout à l'heure, ils sont bloqués à Alep, les rebelles attaquent sur Hama, à la grande différence de la Yougoslavie, le conflit yougoslave est resté, de l'ex-Yougoslavie, circonscrit, là, toutes les puissances régionales et international interfère dans ce conflit, donc c'est assez peu probable d'imaginer cet épuisement.
Ils interféraient aussi. Hein. Ah oui, il y a quand même une opération des Nations Unies et Michel toute une Sien. Série de...
Oui. Camille Grand.
Non, je crois que sur cette question de la paix par l'épuisement, c'est une effectivement finalement l'hypothèse de travail. La question, me semble-t-il, est sur le rôle et la place qu'aurait Bachar al-Assad dans cette Syrie post-cessez-le-feu. Ce qui est extraordinairement compliqué, c'est qu'effectivement, Bachar al-Assad et ses soutiens sont eux-mêmes épuisés et en limite. On sait que l'armée syrienne n'est aujourd'hui pas en mesure de mener des offensives. Le passage à ces campagnes aériennes extrêmement brutales, c'est le constat que les manœuvres telles qu'elles étaient se déroulaient jusqu'en 2014 en tirant profit de l'avantage blindé de l'armée syrienne ne sont plus possibles aujourd'hui parce que cette armée syrienne est elle-même exempte. Ses soutiens, le Hezbollah, les Iraniens et les différentes milices qui se prêtent au jeu ne vont pas non plus pour le Hezbollah aller faire tuer des milliers de combattants pour reprendre Alep, ce qui malgré tout est un front secondaire dans l'imaginaire du Hezbollah. Et les Russes eux-mêmes ont quand même beaucoup calibré leur intervention. C'est une intervention aérienne d'une ampleur limitée. Je ne parle pas de la nature des bombardements, mais je parle du volume de force. C'est sensiblement comparable à l'intervention franco-britannique en Libye, en nombre de sorties, etc. Donc on est sur quelque chose qui peut durer longtemps, mais qui n'est pas non plus nécessairement apte à faire la différence complètement sur le terrain. Et Poutine n'a pas fait le choix, pour des raisons sans doute de politique intérieure, d'engager l'armée russe réellement au sol, en dehors des conseillers et des mercenaires qui sont souvent des soldats à qui on a retiré les bases. Mais donc on est dans une situation où militairement personne ne peut vraiment l'emporter, et où politiquement le maintien de Bachar el-Assad dans la durée est trop inacceptable pour la rébellion pour que ça fasse partie d'un processus de paix durable.
Camille Grand, tout à l'heure Serge Sûr faisait le parallèle avec la Yougoslavie. François Delattre, l'ambassadeur de France aux Nations Unies, a fait aussi lui ce parallèle. Il a fait le parallèle entre Alep et Srebrenica, mais aussi avec Guernica. Bon, évidemment, on se souvient bien sûr de ce marché bombardé par l'aviation nazie pendant cette guerre d'Espagne. Quel regard vous portez sur ce parallèle et peut-être sur l'hypothétique avenir qui nous attendrait si l'histoire venait à se répéter? Est-ce que Alep, c'est le nouveau Guernica?
Je crois qu'on est dans quelque chose qui est à pas mal d'égards comparable, au sens d'un bombardement indiscriminé d'une population civile prise au piège. Et c'est des choses qui, effectivement, renvoient à des souvenirs de Yougoslavie, je parlais de la Tchétchénie tout à l'heure, à d'autres conflits. De ce point de vue-là, une petite nuance par rapport à ce que disait Serge Sur tout à l'heure, les campagnes aériennes occidentales ont fait des victimes civiles. Elles n'ont jamais eu les populations civiles pour cible. C'est ce qui est quand même... et dans les campagnes de Yougoslavie, de Libye ou d'Irak, l'objet n'était pas de détruire les infrastructures civiles du pays pour imposer les solutions préconisées par les Occidentaux. Mais... ayant dit ça, la question qui me semble intéressante et d'ailleurs qui se renvoie au débat sur le Conseil de sécurité, la France avait, il y a 2 ans je crois, proposé que dans les cas de massacre de civils, il y ait une logique de renonciation au veto. D'une suspension du principe du veto. Évidemment, c'est juridiquement à peu près impossible à mettre en place, puisque l'appréciation juridique de quelle est la situation qui ferait ça, et ni russe, ni chinois, ni américain ne souhaitent renoncer au veto.
Sans contexte, c'est le principe du veto. Voilà. S'il devient suspensif, il n'y a plus de veto. Enfin,
voilà. Surtout mais, dès qu'il y a une vraie crise.
Mais il n'est pas inintéressant de porter cette idée au plan politique. C'est-à-dire d'essayer d'imposer l'idée que quand on est devant quelque chose dont l'ampleur humanitaire est déraisonnable, qu'il y a un principe d'abstention volontaire, en quelque sorte, des membres permanents. Illusion, sans doute, mais idée qui me semble pas tout à fait inintéressante dans le contexte actuel.
Serge Sûr, sur ce parallèle entre Alep et Guernica, qui est un parallèle qui a été fait depuis longtemps, notamment l'historien Jean-Pierre Filiou a fait ce parallèle-là, dans les colonnes du Monde d'ailleurs, déjà en avril 2013, il y a plus de 3 ans, Serge Sûr.
Oui. En termes de pertes humaines, j'ai l'impression que les pertes à Alep sont beaucoup plus considérables qu'à Guernica. Et surtout, Guernica était une sorte de bombardement exemplaire. C'était pour créer une situation de terreur qui avait un objet beaucoup plus large. Alors que Alep, me semble-t-il, a un intérêt stratégique. Guernica n'avait pas d'intérêt stratégique. C'était un bombardement relativement symbolique. Bien sûr, très meurtrier et qu'on doit condamner, mais relativement symbolique. Alors qu'Alep, il s'agit d'une véritable opération de guerre. Maintenant, sur les bombardements occidentaux qui sont humanitaires, oui, sans doute, mais enfin, il y a quand même quelques dommages collatéraux, et les États-Unis ont une très longue tradition de bombardement. Lorsque, par exemple, ils ont tué l'ambassadeur français à Hanoï dans des bombardements au Vietnam en 72, ils ont dit que c'était involontaire. Enfin, on veut bien les croire.
C'est amusant parce que l'un et l'autre, finalement, vous ne rebondissez pas tellement sur ce parallèle avec Guernica. Et parce que quand même, le Monde l'a payé au prix fort, très peu de temps après.
Très bien, ça paraît plus juste, oui.
Camille Grand.
Je crois que dans ces discussions, on s'accroche souvent aux précédents historiques. Alors, ça peut être d'un point de vue diplomatique.
En même temps, on n'a que ça. Le futur, c'est plus difficile. Hein.
La menace d'un Munich, l'inquiétude, les situations de bombardement précédentes et l'indignation qui vient devant le bombardement de populations civiles.
Oui, l'indignation, d'accord, mais enfin la mobilisation, elle est quasiment nulle. C'est une des choses aussi qui est étonnante hein, sur Alep, pardon de vous couper, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation, l'opinion publique n'a pas l'air de se mobiliser du tout.
C'est là que le parallèle est intéressant, dans la mesure où, après Guernica, le gouvernement du Front Populaire n'a pas décidé d'intervenir en Espagne pour secourir la République espagnole.
Moi, je ferai un autre parallèle. On a beaucoup agité l'opinion sur Benghazi. Et on a justifié une intervention en Libye à partir de la situation de Benghazi qui risquait de périr. On s'est rendu compte que c'était probablement excessif après et que l'intervention aboutissait à des résultats désastreux. Et je pense que l'exemple libyen est un contre-exemple pour toute intervention possible en Syrie. Et que notamment, il a beaucoup joué à l'encontre d'une intervention au profit des États-Unis. Rappelez-vous qu'Obama a déclaré que Cameron et Sarkozy étaient des Mavericks lorsqu'ils avaient réalisé l'intervention en Libye et qu'ils y avaient entraîné les États-Unis et qu'ils ne voulaient certainement pas recommencer cette affaire en Syrie.
Marc Sémo.
Justement, si on fait le bilan de la Libye, bon, malgré tous les problèmes, le chaos, la situation est beaucoup moins grave en Libye aujourd'hui qu'elle l'est en Syrie, au point que la grande peur aujourd'hui des diplomates, c'est la syrianisation du conflit, de ce qui se passe en Libye. C'est-à-dire l'État islamique a été plus ou moins défait à Sirte. Il y a quand même des milices avec lesquelles on a, sur lesquelles on a des leviers, etc. Donc, sinon,
Camille Rand,
un peu dans la même veine. La question, me semble-t-il, c'est que Obama a, à sa manière très analytique, beaucoup tiré les leçons des précédents engagements américains pour imposer cette doctrine Obama qu'il a décrit dans cet entretien avec les journalistes de The Atlantic, qui est, repose sur un principe assez simple, décrit comme le « don't do stupid shit », donc ne pas faire de bêtises, je vais le dire poliment, qui l'amène à privilégier la non-intervention face à une situation. Dans ce débat-là, moi, je trouve qu'il faut être très attentif parce qu'on a beaucoup débattu des coûts de l'intervention, des conséquences de l'intervention en Irak, en Libye. Et effectivement, le bilan n'est pas univoque dans le sens d'une stabilisation de ces pays, clairement. En même temps, on a de débat, à mon sens, pas assez du coût de la non-intervention, en Syrie, à différents moments clés de cette crise, et où... je dirais c'est assez facile de dire quand on intervient il se passe des choses désagréables, mais quand on n'intervient pas il se passe des choses parfois même plus désagréables. Et de ce point de vue-là, les critiques d'Obama lui-même ou par exemple de nos amis allemands qui critiquent vertement l'intervention en Libye et se félicitent de ne pas avoir été dans cette histoire, sans rentrer dans des hypothèses sur ce que serait devenu la Libye s'il n'y avait pas eu d'intervention, etc., je crois qu'il faut aussi peser le coût de la non-intervention au plan à la fois stratégique, mais aussi politique et humanitaire.
On arrive presque au terme de cette émission. Je me tourne vers vous, Serge Sûr, pour se projeter justement, allons voir du côté du futur ce qui pourrait se passer, et en particulier du côté des Nations Unies, parce que les Nations Unies vont devoir élire, choisir un nouveau secrétaire général. Alors, je parle sous votre contrôle, mais je crois que ça se joue en plusieurs scrutins successifs des 15 membres du Conseil qui doivent chacun voter pour tel ou tel candidat. On dit, ça se fait par bulletin secret, on dit si c'est encourageant, décourageant, ou si c'est sans opinion. Pour le moment, il y a eu 5 tours de scrutin. Je crois que c'est l'ancien Premier ministre portugais qui est en tête, disons, de sa première vague. Mais il y a évidemment d'autres candidats. Il y a par exemple la Bulgare Irina Bokova, qui est la directrice générale de l'UNESCO et qui, elle, a les faveurs de Moscou. Est-ce que, finalement, ce ne sera pas une bonne chose d'avoir une femme comme Irina Bokova? Est-ce que ce ne serait pas, d'une certaine manière, le meilleur moyen de retrouver une forme de dialogue avec la Russie? Parce qu'on voit bien que c'est au cœur des problématiques actuelles. Est-ce que ce ne serait pas... Voilà.
Vous voulez ajouter une voix féminine au cœur antique?
Non.
Le secrétaire général des Nations Unies, il n'a pas plus de pouvoir que le pape. Il est là pour bénir ou pour déplorer et pour...
Non, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose si c'est un candidat Kremlin compatible ou pas.
Si, sans doute, mais Ban Ki-moon n'a pas été un secrétaire général extrêmement actif et on peut craindre que le suivant ne le soit pas davantage.
D'accord, donc ça ne change rien, donc ça ne sert à rien.
Mais personne ne veut d'un secrétaire général puissant.
On peut changer bien sûr, sans problème, ça
personne
ne changera
ne veut
rien de la situation.
Et moi, je voudrais revenir juste un instant sur ce que disait Camille Grand et avant Marc Semo. C'est vrai que l'opération libyenne n'est pas un échec total, mais tout de même, les problèmes qu'on connaît dans l'ensemble du Sahel sont un sous-produit de l'intervention libyenne. Et l'expansion, la prolifération des armes de tout calibre dans toute cette région, l'expansion du djihadisme en découle. Maintenant, sur les coûts de la non-intervention, alors, tout à fait, je vous rejoins absolument, la non-intervention peut être plus désastreuse que l'intervention. Mais le pire, c'est peut-être la non-intervention relâchée, celle qu'on pratiquait au moment de la guerre d'Espagne, où on laissait faire un certain nombre de choses sans véritablement intervenir. Si on intervient, on intervient. Ça veut dire qu'il faut faire intervenir l'OTAN, et les troupes au sol, et puis avoir un processus de reconstruction d'un État ou des États, ce qu'on a fait en Yougoslavie. Il y a eu de véritables interventions militaires, il y a eu un processus politique de reconstruction, on y a mis beaucoup de moyens, mais personne ne veut le faire dans l'ensemble syrien et irakien, parce que, voilà, on était chaudés, on a donné, et qu'en plus... Je le répète, tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Il y a des calculs extrêmement compliqués. Il y a l'Iran, il y a l'Arabie saoudite, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a des États qui sont en cause, des nations, les Kurdes. Bref, tout le monde considère que pour le moment, l'abstention est la meilleure des solutions.
Camille Grand, tiens, toute dernière question. Tout à l'heure, Serge Sûr a balayé d'un revers de manche ma question sur le prochain secrétaire général des Nations Unies, puisque ça n'a visiblement aucun intérêt. En revanche, il y a une chose qui est peut-être un intérêt, et donc j'élargis la question. C'est celle de comment est-ce qu'on fait pour retrouver un mode de discussion, un mode d'échange avec la Russie. Je pensais pouvoir relier ça à cette question de nouvelle nomination, visiblement pas du tout. Mais cette question générale, en tout cas, se pose. Peut-être hors du cadre des Nations Unies, mais elle se pose.
C'est vrai que le secrétaire général s'occupe pas beaucoup de paix et de sécurité. Il s'occupe d'autres choses dans les Nations Unies, mais pas de paix et de sécurité. C'est pas sa mission principale, d'une certaine manière, qui échoue au Conseil de sécurité. Tout le débat avec Vladimir Poutine, et là on peut élargir au-delà du dossier syrien, c'est au fond, est-ce qu'une lecture optimiste, c'est-à-dire Monsieur Poutine souhaite revoit une fois le statut de la Russie plus assuré, rentrer dans un dialogue avec de préférence son candidat favori à l'élection américaine, c'est à Monsieur Trump, pour mettre en place un système d'après-guerre froide, hein, dans lequel la Russie retrouverait toute sa place. Si c'était ça, je dirais que les compromis, même pas très ragoûtants, seraient envisageables. La question, c'est qu'on est dans quelque chose qui est sans doute plus compliqué que ça, avec une dimension de politique intérieure qui génère des fuites en avant militaires dans un certain nombre de conflits, avec des ambitions qui sont sans doute démesurées. Je dis souvent que c'est difficile d'envisager d'avoir la politique de George Bush au Moyen-Orient quand on a le PIB de l'Espagne ou de l'Italie. Donc il y a des limites à ça, et atteindre ces limites est une des choses que M. Poutine ne sait pas forcément faire.
Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle, Serge Sûr, professeur émérite de droit public à Panthéon-Assas. Un grand merci à vous, Camille Grand, président de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et un grand merci à notre partenaire, Marc Semo, journaliste au Monde, partenaire fidèle le vendredi. On va tourner cette page et en ouvrir une autre, celle des idées toujours et encore avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, suite et fin de cette série de chroniques sur la méritocratie. Hier, vous nous avez fait un peu de teasing en évoquant un article paru dans le Grand Quotidien allemand intitulé « Fin de la méritocratie ». De quoi est-ce qu'il s'agit, Brice ?
Comme je vous le disais hier, Florian, cet article signé par un éditorialiste important, Alan Posener, résume de manière assez carrée toutes les critiques que suscitent en ce moment, par le vaste monde, nos démocraties méritocratiques. Un mot d'abord sur Alan Posener. Il s'est fait connaître en Allemagne par ses biographies. Il s'est intéressé ainsi à John Lennon, à Franklin Roosevelt, à John Fitzgerald et Jackie Kennedy. Et son dernier livre en date, consacré à Benoît XVI, portait pour titre « Le pape dangereux ». Posner y accusait ce pape de mener, je cite, « une croisade contre les Lumières ». Nous avons donc affaire, vous le voyez, à un intellectuel allemand réputé pour ne pas prendre de gants. Ce sont mes partenaires de WorldCrunch qui m'ont signalé ce papier, qu'ils en soient remerciés. Dans la tribune qu'il a publiée donc le 23 juillet dernier dans Die Welt, intitulée « End der Meritocratie », il écrit « Michael Young l'avait bien vu ». Avec la méritocratie, les couches inférieures de la société allaient subir une domination plus efficace que celle connue antérieurement. Dans notre société, où la place assignée à chacun par la hiérarchie est théoriquement fixée par ses résultats dans le système d'enseignement, il suffit de rater une seule marche du cursus pour être éliminé. De cet échec, on déduira que font défaut chez l'intéressé l'intelligence ou le goût de l'effort, motif suffisant pour être évincé. Alors la nouvelle morale, celle que proclame la culture contemporaine, c'est « vous êtes les seuls responsables de vos succès comme de vos échecs ». Cela rend les vainqueurs arrogants, ils n'ont pas conscience de ce que leur ascension doit à la société, et cela rend les vaincus hargneux. Ils haïssent les élites, les bons élèves qui ont réussi à tous les examens. Non pas comme aux États-Unis parce que les élites auraient échoué, mais parce qu'ils soupçonnent les élites d'avoir adopté sciemment des politiques qui les condamnent, eux, à l'échec. Mondialisation, libéralisation, immigration. Spécialement, écrit Posener, lorsqu'ils n'appartiennent pas à une minorité ethnique ou qu'ils ne sont pas handicapés car ils ne peuvent pas attribuer leur échec à une quelconque discrimination. Ce sont en effet, je le cite, les hommes blancs des couches sociales inférieures qui ont exprimé leur frustration en votant pour le Brexit en Angleterre, qui fournissent les bataillons de Donald Trump et qui défilent contre les immigrés en Allemagne. Et Posener d'utiliser deux mots d'apparition récente dans la presse allemande où il désigne simplement les nouveaux rapports de classe. D'un côté, vous avez les Leistungsträger, un mot qui signifie normalement en allemand prestataire, mais qui renvoie ici dans ce contexte au gagnant. Car en effet, die Leistung signifie le bon résultat, le travail accompli, la performance. Donc les Leistungsträger, ce sont les champions de l'idée du bon résultat, les achievers, comme on dit en anglais, les gens vraiment performants. Et de l'autre côté de la barrière, un mot nouveau, de plus en plus employé ces derniers temps dans la presse, les Abgehängten, littéralement les décrochés. Mais attention! Le verbe dont ce mot est le participe passé substantivé, abhängen, signifie aussi dépendre de. Les abgehängten, cela paraît évident, c'est l'équivalent de celui forgé par Robert Castel, les désaffiliés. Ils ont décroché et ils dépendent des minima sociaux. La presse allemande emploie ce mot en particulier pour désigner les jeunes chômeurs. Et Posener poursuit, les Leistungsträger se réjouissent de l'ouverture des frontières, du progrès technique qui va rendre leurs compétences encore plus précieuses sur le marché du travail mondialisé. Par contre, les Abgehängten se considèrent comme des indigènes menacés par les cultures étrangères. Ils prônent la famille contre les célibataires, les valeurs contre les intellectuels. Aucune société, conclut Posener, ne peut supporter longtemps qu'une importante minorité ait le sentiment de ne plus en faire partie. Signe des temps, alors que le néo-travailliste Tony Blair prônait une Grande-Bretagne méritocratique, eh bien la conservatrice Theresa May, elle, veut une Grande-Bretagne qui fonctionne pour tous. Et Posener de conclure, si nous ne voulons pas que notre démocratie se retourne contre nous, nous devons modérer la méritocratie et en élargir la base.
Et ailleurs en Europe, Brice, que dit-on de ce programme?
Eh bien justement est paru cette année en français l'ouvrage d'un universitaire italien, Giuseppe Trognon, spécialiste de philosophie politique, qui porte exactement sur ce sujet. Comment rendre la méritocratie plus égalitaire? Et son titre, La démocratie du mérite. Il s'agit d'une analyse, disons, rawlsienne de la méritocratie en tant que système de récompense des plus valeureux. Premier reproche de Trognon. La méritocratie aggrave l'esprit de compétition au sein de la société démocratique, ce qui n'est pas très démocratique. Ensuite, la méritocratie est un système de récompense et de punition ancré dans une culture du travail et de l'effort productif, on vient le voir, ce qui exclut les chômeurs, alors que le progrès technique chasse de plus en plus de personnes du marché du travail. Trognon constate aussi, et c'est très original, que la logique méritocratique a glissé progressivement de la sphère de production à celle de la consommation. Au passage, Giuseppe égratigne la manière dont, en France, la méritocratie s'est glissée dans les mœurs de l'ancienne aristocratie. Il écrit, je le cite, « La France résonne encore comme un noble de la cour de Versailles. Un diplôme dans les écoles d'excellence de l'État fournit des droits, comme jadis un titre nobiliaire donnait des privilèges. Il y a en France des noyaux familiaux dans lesquels tous les membres, parents et enfants font partie de ce groupe de méritants de l'État. Nul doute qu'il a dû en rencontrer Giuseppe.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette série absolument passionnante sur la méritocratie. J'invite tous les auditeurs à retourner, à aller sur la page dédiée à votre chronique Le Tour du Monde des Idées qu'on peut retrouver facilement sur le petit moteur de recherche du site de France Culture, www.franceculture.fr. Très belle journée Brice et puis on se retrouve lundi.